BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. On la considère comme l'accélérateur des entreprises de la Health Tech. En France, c'est l'association France Biotech et son tout nouveau président Frédéric Girard est mon premier invité. Mon deuxième invité a été nommé par Forbes parmi les 30 personnalités technologiques âgées de moins de 30 ans. C'est Stan Laroque, président fondateur de la société Lynx et son casque de réalité mixte, le Lynx R1, qui révolutionne entre autres la chirurgie. Enfin, il vole au secours des patients complètement paralysés en leur permettant de communiquer uniquement grâce au mouvement oculaire. C'est Thomas Groel avec sa start-up Jib. Check-up santé, c'est parti. Frédéric Girard, bonjour.
Bonjour Fabien Guez.
Alors, vous êtes le tout nouveau président de France Biotech. Enfin, vous connaissez quand même par cœur cette association puisque vous étiez déjà dans le conseil d'administration des 2017, c'est ça ? Et
tout
vice-président 2021.
Tout à fait.
Donc, vous connaissez par cœur cette association. Le France Biotech, c'est une association professionnelle, c'est bien ça ?
Tout à fait. Nous sommes l'association professionnelle des entrepreneurs français de la Health Tech. Donc, on a aujourd'hui...
Donc, de l'innovation, on peut dire.
De l'innovation en santé, tout ouais. À fait. On a à peu près 700 adhérents. Et parmi ces 700 adhérents, on a 550 entrepreneurs de l'innovation en santé qui représentent les trois grandes familles technologiques. Donc, les biotech qui développent des médicaments, les medtech qui développent des dispositifs médicaux et puis également des start-up en santé numérique qui est un secteur qui se développe très rapidement.
D'accord. Donc, vous avez une grande partie donc des acteurs de l'innovation. Donc, on sait qu'à peu près, il y a pas mal d'entreprises dans le medtech, healthtech, tout ça en France.
Aujourd'hui, les entreprises innovantes en santé, en France, il y en a à peu près 2600, donc c'est un secteur très dynamique. Sur les 2600, il y a à peu près un peu plus de 800 biotech en croissance légère. On a eu une vingtaine de créations nettes d'entreprises l'année dernière, 1400 medtech, et puis un secteur, comme je vous le disais, qui se développe très vite, qui est le secteur des start-up en santé numérique avec 450 entreprises, ce qui est deux fois plus qu'en 2019.
Oui, justement, donc vous avez donc une grande partie quand même, une bonne partie de ce qui concerne la Health Tech en France. Et d'ailleurs, ça continue, c'est en pleine croissance France Biotech, des adhésions tous les ans.
On a depuis 5 ans une croissance des adhérents d'environ 100 nouvelle entreprise nette chaque année.
Ah oui, c'était énorme quand même.
Tout à fait, ce qui témoigne de l'intérêt de notre modèle, qui est vraiment un modèle très collaboratif. Ce que l'on essaie de faire, c'est évidemment d'accélérer les entreprises qui nous rejoignent. Et ça, on le fait d'abord à travers un meilleur partage de l'information. Il faut que l'information circule. C'est un secteur où les choses évoluent très vite. À travers un partage d'expertise. Et c'est vrai que les sachants aide ceux qui sont moins sachants, et c'est en ça qu'accueillir des nouveaux adhérents est important, parce que chaque adhérent qui nous rejoint, c'est une expertise supplémentaire. Et puis aussi un gros travail de co-construction avec les pouvoirs publics pour développer en France un écosystème qui soit favorable au développement d'innovation en santé.
Ouais, justement, donc vous êtes un interlocuteur quasiment incontournable, non, avec le public, avec les autorités de santé, avec l'État ou pas, le ministère de la Santé ?
On est un acteur de l'écosystème, on est effectivement un représentatif des entrepreneurs en santé. On est en dialogue...
Des entrepreneurs privés, bien sûr.
Entrepreneurs privés, il faut savoir quand même que une très grande partie des innovations qui sont développées par les entreprises qui sont adhérentes de France Biotech sont issues de la recherche académique française. Et à un moment, pour que ces inventions se développent et remplissent les critères exigés par les régulateurs, elles rejoignent des entreprises privées qui vont pouvoir financer leur développement. Donc on a effectivement ces entrepreneurs...
Ça, c'est une véritable révolution de ces 10 dernières années, non ? Que le privé sera le public se rapproche du privé. C'était relativement cloisonné il y a 20-30 ans.
Relativement, mais les universités n'ont pas nécessairement pour vocation à développer des produits entre guillemets commerciaux, si vous voulez. Au-delà de l'invention, il y a toute une phase de développement, et notamment de développement clinique, qui est une phase complexe, qui est une phase extrêmement coûteuse, de façon à garantir, et c'est important, l'efficacité et la tolérance des produits qui sont mis sur le marché. Et ça, c'est plutôt géré par des entreprises qui sont créées à dessein, hein, et il n'est pas rare qu'une innovation découverte dans une université donne lieu à la création d'une entreprise spécifique pour développer cette innovation. Et souvent, le chercheur qui est l'inventeur est celui qui est à l'origine de la création de cette entreprise.
Alors, c'est vrai que c'est un secteur, le secteur de health tech, c'est un secteur qui emploie beaucoup.
Aujourd'hui, on estime à 15 000 emplois directs. Le secteur de la health tech, c'est plus 20% en 2023 par rapport à 2022. Donc un secteur très dynamique. Ça, c'est les emplois directs. On estime à 60 000 la totalité des emplois entre le direct et l'indirect. Et puis, c'est un secteur qui emploie des expertises très pointues, hein, puisqu'on est sur le développement de technologies très innovantes.
Ouais, et malgré justement, malgré ce contexte où difficulté à l'emploi, difficulté de trouver des CDI, etc., c'est quand même un secteur qui marche bien.
Alors, ça n'est pas simple.
Ouais.
Les difficultés à recruter sont mises en avant parmi les 3-4 préoccupations des entreprises. Maintenant, c'est un secteur qui a beaucoup de sens pour les collaborateurs qui y travaillent, puisqu'on est sur la santé, qui est la première préoccupation de nos concitoyens, si vous voulez. Donc on est sur la santé, on est sur l'innovation en santé, et on est capable de changer le monde d'une certaine manière, puisqu'on apporte des solutions à des situations qui sont parfois totalement dépourvues.
Alors vous rassemblez un paquet d'acteurs, hein. Ça va du chercheur, de l'entrepreneur, c'est bien ça, non ?
Alors on a nous des entreprises, hein, des entrepreneurs adhérents, et puis on a cette faculté à créer en fonction des besoins ce qu'on appelle des task force, qui elles vont rassembler plus largement que nos adhérents, et donc on va faire venir sur des sujets d'actualité effectivement des chercheurs, des associations de patients, des patients, des professionnels de santé, médecins ou professions paramédicales, les pouvoirs publics, des investisseurs, de façon à pouvoir faire ensemble des propositions qui vont aider au renforcement d'une filière. On l'a fait récemment avec des propositions sur la fertilité ou des propositions sur l'anatomopathologie.
C'est nouveau cet intérêt donc pour les associations de patients, non ?
Alors, nouveau, je dirais que les choses sont en train de s'organiser de part et d'autre. Hein, on a effectivement un plus d'implication des usagers du système de santé dans toutes les décisions qui sont prises sur ce qui les concerne au premier chef, hein, à la fois les produits, mais également l'organisation du système. C'est évidemment important parce que ces associations de patients vont être ceux qui vont bénéficier des innovations. Donc, on a besoin de leur perception, en fait, savoir ce que ça va changer dans leur vie. Et donc, c'est important de pouvoir effectivement les amener avec nous dans cette réflexion.
Alors, on sait que la principale préoccupation des startups, des entreprises, c'est le financement. Donc, c'est un véritable défi pour vous ?
Oui, parce que les entreprises, elles démarrent de zéro. Elles doivent vivre jusqu'à la commercialisation d'un produit. Si vous prenez l'exemple d'un médicament, on dit traditionnellement un médicament entre sa découverte et sa commercialisation, c'est 15 ans et 1 milliard d'euros. Hein, et donc il va falloir à une jeune équipe, si vous voulez, qu'elle parcourt tout ce chemin pour développer son produit, et donc qu'elle soit capable d'attirer des investisseurs qui, avec un niveau de risque élevé, vont être capables d'investir ce milliard qui va permettre de mener ces innovations jusqu'au marché. Et donc c'est aujourd'hui la préoccupation essentielle des entrepreneurs. En 2023, les deux tiers d'entre eux étaient en recherche de financement. Hein, pour vous dire, les deux tiers d'entre eux étaient en recherche de financement avec de réelles difficultés dans les phases précoces, c'est-à-dire quand on passe de l'université à la création d'une start-up, et puis quand on passe des premiers essais, quand on fait les premiers essais cliniques chez l'être humain.
Ouais, est-ce que l'Europe intervient à certains niveaux de financement ou pas ?
Alors, l'Europe intervient, la Banque européenne intervient et est un investisseur important dans l'écosystème français. Il y a également un certain nombre d'appels à projets, si vous voulez, qui permettent de drainer des financements européens sur le développement des innovations en santé. Après, on a aussi en France, et l'environnement s'est beaucoup, beaucoup transformé, on a BPI qui est un acteur majeur du financement des startups, et puis on a eu ce que l'on a appelé les dispositifs TIBI, du nom de la personne qui a conçu ce dispositif, qui permet d'orienter une partie de l'épargne des Français vers des fonds d'investissement spécialisés dans le soutien des innovations. Ça a été une première tranche de 7 milliards qui est partie vers la tech, et une deuxième tranche qui s'annonce d'un montant à peu près équivalent.
Je rappelle que vous organisez aussi les fameux HTID, les Health Tech Day. C'est bien ça.
Alors, on a été à l'origine du projet, qui aujourd'hui vit sa vie, même si on reste impliqué dans son organisation. C'est un événement qui est important, puisque c'est un moment où les startups de la health tech vont rencontrer des investisseurs du monde entier, plutôt des startups au stade tardif du développement des produits. Et comme on en a parlé à l'instant, le financement est une préoccupation majeure. Eh bien, voilà, c'est l'occasion de mettre en avant...
Un énorme événement. Eh bien, merci Frédéric Gérard pour ce que vous faites pour la STEC en France. Merci beaucoup. On va à présent accueillir Stan Larocque, qui est le président de Lynx.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Stan Larocque, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez fait une école d'ingénieur. Vous avez créé en 2017 la société Lynx. On ne dit pas Lynx, on dit Lynx. Est-ce que on va démarrer avant de parler de votre société qui cartonne, on le sait. Je voudrais simplement que les gens comprennent la différence entre réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte.
Oui, alors réalité virtuelle, c'est quand vous mettez un casque sur la tête et que vous êtes ailleurs, vous êtes dans un jeu vidéo, un film, vous êtes complètement immergé dans une autre réalité, d'où le terme réalité virtuelle. Mm-hmm. À l'inverse, en fait, réalité augmentée, ça vous ramène dans le monde réel, c'est votre réalité qui est augmentée par des objets 3D qu'on va mettre sur la table là devant nous. Donc c'est vraiment un peu ce que les gens appellent les hologrammes, comme dans Star Wars, c'est exactement ce genre de choses. Et la réalité mixte, c'est la fusion des deux. C'est-à-dire qu'on peut à la fois faire de la réalité virtuelle, c'est-à-dire être complètement immergé, et puis parfois revenir en réalité et alterner entre les deux, donc juste voir des petits éléments 3D devant nous.
Rajouter des éléments...
C'est ça.
Oui, et évidemment par l'intermédiaire d'un casque de
aujourd'hui, réalité. C'est à la forme d'un casque.
Évidemment. Donc, je l'ai dit au début, vous avez quand même été classé par Forbes en 2023, c'est pas il y a vraiment un an, il n'y a qu'un an, parmi les 30 meilleures personnalités technologiques de moins de 30 ans.
Oui, alors la mauvaise nouvelle, c'est que maintenant j'ai 30 ans.
Donc c'est raté, donc c'est fini.
Mais oui, effectivement, Forbes Europe fait le classement comme Forbes US tous les ans. Donc ça fait plaisir aussi à toute l'équipe qui a travaillé très dur sur les produits. Donc on est ravis d'avoir
une consécration quand même.
C'est des reconnaissances intéressantes dans le secteur.
Alors vous développez votre fameux casque Lynx R1. R1, rien à voir avec Star Wars ?
Non, pour le moment, non.
Oui. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça permet de faire, donc ce casque ?
Eh ben, ce casque, je l'ai amené là, il est avec nous sur le plateau. Ce casque, en fait, c'est un des premiers casques de réalité mixte, un peu comme celui d'Apple qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, ou ceux de Meta aussi. Et en gros, ce casque, c'est le premier casque et le seul casque européen de réalité mixte complètement autonome.
Il permet de faire quoi ? De visualiser quoi ?
Alors, il permet vraiment de visualiser soit des environnements complètement virtuels, donc par exemple, transporter quelqu'un dans un bloc opératoire, ou pouvoir être assisté par des objets virtuels, des éléments 2D ou 3D autour de vous.
Et donc, comme un chirurgien, par exemple, qui...
Par exemple, dans le domaine de la santé, on travaille avec des chirurgiens, dont un, le professeur Nataf, que nous avons vu ensemble il n'y a pas longtemps. On travaille avec des chirurgiens pour les aider, notamment en préopératoire, à s'entraîner sur une opération en réalité augmentée, donc avec un vrai mannequin, le vrai bloc, et par-dessus, voir un organe virtuel et sur lequel il va s'entraîner, étudier sa stratégie opératoire.
Un énorme intérêt pour la formation, quoi.
Et donc, du coup,
des étudiants, des médecins.
Ça nous amène sur le gros sujet, qui est un sujet un peu brûlant dans toute la médecine, qui est la formation. Mmh. Et en fait, ces outils-là, qu'on le veuille ou non, vont devenir complètement incontournables. Vont trouver leur place dans la formation de jeunes chirurgiens, mais jeunes médecins, dans toute forme de praticiens. Et ça va, je pense, déjà réduire le taux d'erreur, permettre aux gens de mieux apprendre, de mieux comprendre que ce qu'on apprenait sur un manuel en 2D ou une télé les grands jours. Là, on a vraiment la 3D avec nous, on a le Z. Ouais. Et le fait d'avoir cette spatialisation des organes, de l'anatomie, ça va être incroyable.
Alors, justement, comment ça marche ?
Eh ben, ça marche. En fait, on met tout simplement le casque sur la tête comme un chapeau. On le chausse sur la tête. Voilà,
c'est très facile. Mais quelle est la technique qui fait que... Et en fait, on arrive à avoir cette réalité virtuelle. Il y a des caméras, il y a des
alors
capteurs.
Alors, il y a tout un tas de capteurs et de caméras. En fait, il y a 6 caméras devant le casque. Il y a 2 écrans avec des lentilles très particulières qui vous permettent de voir avec une résolution.
Vous êtes très fier de vos lentilles.
Alors, on est très fiers de nos lentilles, très fiers de l'objet en lui-même. C'est un miracle qu'on ait pu faire ça en France. On a été soutenus par les gens habituels, à savoir BPI, mais aussi quelques acteurs du financement privé. Ça reste quand même des défis de pouvoir avoir ce genre de choses qui existent en Europe. Et on est très fiers.
Ouais. Donc, vous parliez de formation. Donc, ça permet une formation à distance. Ça permet de faire même une téléopération chirurgicale.
Exactement. Donc, c'est des choses aussi qu'on étudie avec la PHP et l'INSERM. On a un laboratoire public-privé où le privé est représenté par notre société et la PHP et l'INSERM. On travaille justement sur les opérations à distance, la télémédecine aussi. Toutes ces opérations-là, en fait, vont passer par aussi ce genre de matériel.
Et ce cas, d'ailleurs, s'adapte pas seulement à la santé, il s'adapte à d'autres domaines que la santé.
On a des clients qui font des choses incroyables dans la défense et dans l'industrie. Donc ça va toucher énormément de métiers différents. Ouais. Mais une des choses qui nous rend le plus fiers, c'est d'avoir aussi cet impact dans la santé et dans des endroits...
Un potentiel vraiment énorme, quoi.
Ah, mais complètement.
Alors, vous avez donc... vous voyez, vous avez des données quand vous êtes devant une intervention chirurgicale. Est-ce que ces données... quel est le degré de sécurisation de ces données?
Alors, il doit être le plus important possible, tout simplement. Il ne peut pas y avoir de compromis là-dessus. Vous imaginez, on va filmer des opérations avec 6 caméras, on va regarder l'œil du chirurgien, ce qu'il voit, etc. On a beaucoup de données qui vont être captées à la fois sur le praticien et sur les patients. Et donc, le fait d'avoir un acteur européen qui est capable de proposer du matériel ouvert, respectueux de la vie privée, avec nos valeurs européennes, plutôt que du matériel chinois ou américain, on est content. On va jouer ce rôle-là.
Alors, racontez-moi ce que vous avez fait avec Jean-Michel Jarre et son concert à Versailles.
Oui, donc typiquement dans les autres utilisations, au-delà de la santé, c'est ce genre de casque va trouver sa place aussi dans des lieux culturels. Vous allez en voir beaucoup d'autres l'année prochaine. Mais avec Jean-Michel Jarre, du coup, qui est un des grands défenseurs aussi de Lynx, on a fait un concert.
Des nouvelles technos depuis des dizaines d'années, oui.
Et bien sûr, ça a été un pionnier sur tout un tas de technologies et on le salue au passage pour tout ça. Mais ce qu'on a fait avec lui, c'est qu'on a fait un concert hybride dans la Galerie des Glaces. Donc, dans la Galerie des Glaces, Jean-Michel Jarre, il est habitué à faire des concerts de milliers, dizaines, centaines de milliers de personnes. La Galerie des Glaces, c'est tout petit pour lui. Mmh. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il a pu accueillir, 400 personnes dans la galerie, en physique. Et en virtuel, des gens ont pu assister au concert en réalité virtuelle. Et lui, il avait le casque sur la tête, parce que son avatar virtuel était dans cette réalité, suivi par des milliers de personnes.
Génial. Vous cherchez toujours à lever des fonds pour vous développer ou... Vous êtes déjà milliardaire.
On n'est pas encore milliardaire. On cherche là à lever des fonds. On est en train de lever des fonds actuellement. On est en bonne voie avec des financeurs français. Donc je suis assez confiant.
Moi aussi j'ai l'air d'être très confiant et optimiste pour vous. Vous êtes déjà en train de préparer la suite, le R2.
Le R2 qui ressemble plus à R2D2. Du coup vous parlez de Star Wars. Mm-hmm. Mais oui, on travaille sur le R2 depuis l'été dernier et c'est un produit qu'on va montrer de manière très sereine l'été prochain et l'été 2025 qui va sortir. Et il va être incroyable.
Voilà. Eh bien, franchement, vous revenez quand vous voulez. Merci, Stan Arok. On va à présent accueillir et finir l'émission avec Thomas Groll, qui est président de JIB.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Thomas Groll, bonjour.
Bonjour, Fabien.
Et bienvenue dans Check-up Santé. Vous avez... cofondé en 2017. Décidément, l'année 2017, c'est une année assez fructueuse, puisque la personne précédente était aussi à créer sa boîte en 2017. Vous êtes passé par ESCP Business School.
Tout à fait.
Vous êtes parti d'ailleurs, vous avez travaillé aussi en Corée.
Tout à fait.
D'où le nom peut-être de votre boîte, JIB.
JIB, ça veut dire maison avec une idée de cocon.
Ouais.
Et l'idée est restée avec
D'accord.
l'idée de...
Et vous êtes quand même revenu en France.
Tout à fait, parce que mes attaches familiales, et puis c'est quand même un pays superbe pour innover.
Et puis ce qui est rare, c'est que vous êtes votre siège est en plein Paris, quoi, dans le 20e arrondissement.
Ouais.
Alors, vous vous adressez donc au handicap moteur, donc et principalement les problèmes de communication, c'est ça, d'un handicapé avec son entourage.
C'est ça, en fait, l'idée de JIB, c'est d'apporter des technologies adaptées aux réalités des personnes en situation de handicap moteur. Donc, on vient dresser deux univers, c'est pouvoir contrôler l'univers autour de soi, ce qui est compliqué quand on est en fauteuil roulant électrique, mais aussi de pouvoir communiquer, parce qu'il y a beaucoup de pathologies, par exemple la sclérose en plaques, la maladie de Charcot, qui affecte la capacité d'oralisation.
D'accord, vous vous intéressez au handicap handicap de différents niveaux ou alors ou handicap comme par exemple dans le Charcot.
Alors c'est plutôt le handicap lourd qui affecte beaucoup lourd, ouais. Les capacités de la personne à interagir avec son univers autour de lui. Ouais.
Donc en fait vous êtes le dernier maillon en fait de communication pour le patient. Donc alors, parfois une évolution défavorable, c'est bien ça, non?
Nous on pense plutôt l'inverse. On est le premier maillon vers la réinclusion des personnes en situation de handicap. Notre vision, ouais, c'est vraiment que la technologie peut être vecteur d'inclusion et donc pouvoir communiquer, c'est pouvoir se maintenir dans l'emploi, ouais, pouvoir accéder à l'éducation pour les plus jeunes, donc c'est vraiment essentiel.
Alors donc, grâce à votre réalisation qui est assez disruptive, non?
On peut le dire.
Oui, vous permettez donc aux patients donc, de communiquer, entre autres, hein, qu'avec les mouvements oculaires. Comment ça marche?
C'est ça. En fait, il y a une caméra qui vient capter le mouvement des yeux, de l'iris, qui vient reproduire ça sur l'écran. Et derrière, on va avoir une interface adaptée avec un ensemble de surcouches logicielles qui permettent d'accéder à l'univers numérique, de pouvoir communiquer avec une synthèse vocale, mm-hmm, pouvoir contrôler l'univers autour de soi avec, ouais, un système domotique.
Donc il y a un certain apprentissage pour le
alors il faut quelques jours pour le patient, c'est ça, donc prise en main, ouais, ouais,
il faut et donc bien sûr son regard sur une LED, sur quoi, sur une
c'est
LED,
ça
sur
un en fait elle, sur... la personne pose son regard sur un point et ouais, à partir d'un certain nombre de secondes ça va cliquer, donc ça va reproduire l'usage en fait de d'une souris, mais mm-hmm, du coup il faut aussi bien sûr qu'il y ait des claviers et des interfaces adaptées à cet usage bien particulier pour faire en évidemment sorte que la personne puisse utiliser tout l'ordinateur.
Évidemment, une application très particulière, évidemment, adaptée. C'est ça. Et à partir de là, donc, quand le donc c'est relativement lent, c'est ça, pour une phrase ou pour...
Alors, oui, alors, il y a un apprentissage progressif. Donc, nous, on accompagne vraiment les personnes sur la prise en main de l'outil et le suivi par la suite. Oui. Progressivement, au fil des jours, la personne gagne en aisance. Au départ, elle va faire des sessions d'une demi-heure, une heure, puis rapidement, quelques heures. Et les personnes qui sont plus à l'aise peuvent passer vraiment la journée sur cet outil sans de fatigue oculaire, mm-hmm, ce qui est vraiment l'enjeu.
Et donc, ça se traduit par une voix, une synthèse vocale, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Une voix en fait qui va parler pour l'utilisateur. On utilise même parfois certains logiciels où on enregistre la voix de l'utilisateur avant qu'il la perde, mm-hmm, pour qu'il puisse communiquer avec sa voix propre, parce qu'il y a vraiment un ressenti par rapport à la voix qui parle pour nous. Donc plus ça va être naturel, plus la personne va se sentir bien et intégrée dans la société. Et
donc c'est pas un projet, c'est déjà opérationnel.
C'est absolument déjà opérationnel.
Ouais, donc ça veut dire que vous distribuez déjà votre
tout à
votre
fait application. Donc on a équipé plus de 150 personnes avec ce dispositif là au global sur toutes nos solutions, plus de 800 bénéficiaires. On travaille avec des établissements médico-sociaux, avec des hôpitaux, donc voilà, avec
donc,
différents cadres.
Vous vous intéressez à d'autres handicaps par l'intermédiaire de la domotique?
Exactement, donc en fait, oui, tout ce qui est handicap moteur lourd, on l'adresse à l'heure actuelle, donc notamment avec le sujet de la domotique qui vient toucher plutôt d'autres pathologies comme la tétraplégie, les polyhandicaps, les paralysies cérébrales, etc. Et on va progressivement aussi adresser d'autres handicaps, plus sur les troubles cognitifs et même le handicap mental. Et ça, c'est les pistes sur lesquelles on travaille.
Et de quelle façon?
Alors, il y a plein d'enjeux dans le handicap mental, dans les résidences médicalisées. Il y a un besoin de sécurité au niveau des résidents, aussi d'apaisement dans le quotidien entre les soignants et les résidents. Également le sujet de la communication, puisque quand on a un handicap mental et qu'on est en résidence, on a besoin d'être en contact avec sa famille qui est parfois éloignée, et c'est aussi les sujets qu'on va adresser.
D'accord. Donc vous adressez aussi, vous avez dit, au handicap mental et aussi pour la post-réanimation.
Comment ça c'est ça. Alors ça, c'est un projet tout nouveau, mmh, sur lequel on est en train de travailler, mmh, pour faire en sorte qu'avec cet outil de communication dont on parlait tout à l'heure, les personnes qui sortent de coma en réanimation puissent aussi communiquer à un moment où en fait ils sont intubés, ils n'ont pas la capacité de communication orale. D'accord. Et ça va changer, d'accord, une réalité
pour les personnes qui ne peuvent pas évidemment parler parce qu'elles sont intubées ou parce qu'elles sont en respirateur artificiel. Donc ouais, là aussi, c'est toujours avec le même système, avec le mouvement oculaire.
Du coup, un enjeu très fort au niveau du logiciel de faire en sorte, ouais, que ça soit vraiment adapté à cet enjeu-là, et donc c'est ce sur quoi on amorce tout un projet.
Ce serait normal, hein, mais ça coûte cher.
Alors c'est des dispositifs qui vont naviguer entre 5 000 et 7 000 euros, ouais, en moyenne.
C'est plus cher que ça finalement.
En fait, c'est très abordable
pour le service, les équivalents. Ça rend, c'est pas si cher, ouais.
C'est ça. Et sachant que on fait vraiment en sorte que le dispositif soit le plus accessible possible, et notamment très bien intégré dans les financements publics. Donc c'est en moyenne entre 75 et jusqu'à 100% qui vont être financés par différents.
Donc structures. Justement, j'imagine que vous avez au départ levé des fonds. Donc
c'est ça.
Si ça continue, quel est le business model? C'est que vous attendez encore du financement
Alors,
pour vous développer ?
Alors oui, tout à fait. On est en cours là de levée de fonds justement pour grandir à la fois à l'international. On va développer nos activités sur d'autres marchés européens et également ces projets, nouveaux projets de développement.
Vous êtes déjà présent, je crois, en Belgique.
On commence en Belgique, très bientôt en Suisse également, ouais. Et donc par la suite, on vise d'autres pays européens également. Ouais.
On peut imaginer que vos solutions soient même à la limite prises en charge par l'assurance maladie, voire par des complémentaires ?
Alors, on espérait. Pour ça, il faudrait quand même qu'il y ait quelques évolutions dans la réglementation, mais on y travaille.
Oui. Bon, ouais, franchement, bravo pour ce que vous faites.
Merci.
Vous connaissez Olivier Gouin, non, qui est venu plusieurs fois
dans
l'émission ?
Bien sûr, on a eu l'occasion d'échanger quelques fois par mail.
Enfin, lui peut encore se servir d'un clavier ?
Tout à fait. Alors, lui, il utilise les doigts à l'heure actuelle, mais du coup, voilà, avec aussi un outil qui communique pour lui avec, pareil, une synthèse vocale.
Qui fait beaucoup pour sa pathologie. Hein,
exactement. C'est super ce qu'il fait, que ça soit à travers son film, à travers ses apparitions médias. Ouais. Il vient vraiment communiquer sur une maladie qui a besoin d'être plus connue et plus largement faire connaître le handicap. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important et le
distinguer pour la recherche aussi. Pourcer pour la recherche.
Absolument.
Merci beaucoup Thomas Grosz. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.